Bon, bonjour à tous, merci d'être là pour la présentation du département génie civil et construction. Le président du département est vraiment il est dans le bâtiment principal de l'école, donc il arrive. C'est Bernard Vaudeville qui est un directeur de bureau d'études dans Paris. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas là, il est venu juste pour ça. Donc je vous présente aussi Aphrodite Michali, qui est la responsable académique du département. Et moi, je suis Jean-Michel Pereira, adjoint au président. Donc moi, je suis chercheur au laboratoire Navier dans l'équipe de géotechnique. En plus, je veux dire, ma charge au département, c'est à temps partiel. Par contre, Aphrodite est à temps plein pour le département en tant que responsable académique. Au programme de la présentation, ce qu'on a prévu. Bernard ou moi, on va vous parler un peu des métiers et des enjeux du génie civil. Et puis après, on a un temps de témoignages d'anciens. Pour l'instant, il y a Romain Ménil qui est ici, qui est un ancien du département qui a fait sa thèse, qui est un jeune docteur maintenant, qui a soutenu il n'y a pas longtemps, au laboratoire Navier aussi. Donc il va vous parler de son parcours. Sauf problème, normalement, on a une ancienne qui était en double diplôme à l'école, Nomiki Kotaki, qui a travaillé chez CETEC et qui maintenant est à FH Construction. J'espère qu'elle pourra venir. Et puis après, on ira un peu plus dans le détail des parcours qui sont offerts au niveau du département et puis quelques éléments sur les enseignements. Évidemment, à la fin, vous aurez la possibilité de poser des questions. Alors, si on regarde un petit peu en termes de métier et d'enjeux au niveau du génie civil, vous avez, c'est un peu pompeux, on va dire, mais l'ambition du département, c'est de, comme de l'école en général, c'est de faire de vous des ingénieurs avec un haut potentiel, un haut niveau scientifique qui allie une culture technique et qui peuvent appréhender de façon globale des projets. Alors, les aspects qui sont importants à traiter, ça va être la conception, l'innovation et puis le management du projet lui-même. Je vais passer la parole à Bernard tout de suite. Une des caractéristiques importantes du département, c'est qu'on vous forme pour l'aspect de construction, d'innovation, de conception, de d'ouvrage. Donc le fait, c'est quelque chose d'important auquel on s'attache beaucoup, le fait d'appréhender la matière, d'appréhender les structures, de comprendre comment une structure fonctionne avec la finalité justement de la construire. C'est un des cœurs les plus importants de ce qu'on veut passer au niveau du département. En termes de débouchés, donc c'est assez vaste. Le domaine du génie civil lui-même est assez vaste, mais dans le génie civil, en termes de fonctions possibles, de métiers possibles, vous avez beaucoup de choses. Vous avez la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, des choses plus spécifiques en bureau d'études. Vous pouvez aller en entreprise de travaux, en R&D, que ce soit au niveau académique ou dans les entreprises. Vous avez des débouchés dans les bureaux de méthode, bureaux de contrôle, et puis y compris cabinet d'architecture. Je ne sais pas si tu veux... Après. Alors, quelques statistiques, je ne vais pas vous noyer avec ça, mais vous avez une répartition typique d'une promotion, donc vous avez beaucoup, environ 40%, de débouchés dans le domaine études, on va dire. Maîtrise d'œuvre de l'ordre de 20%, conseil expertise de l'ordre de 11%. Vous avez des débouchés dans le monde de la recherche, c'est un peu moins de 10% d'étudiants qui continuent en thèse. Vous allez voir qu'on a des possibilités en troisième année de se spécialiser, d'aller vers des masters de recherche. C'est quelque chose à ne pas négliger, même si la finalité du département, c'est quelque chose de pratique et on va vers les métiers de la construction. Il y a une dimension recherche et innovation qui est importante en génie civil, qu'il ne faut pas négliger. Et donc, vous avez tout à fait la possibilité de continuer en thèse par la suite. Alors, donc je vous parlais des objets, là c'est quelques exemples. Donc on peut penser que les métiers du génie civil utilisent des méthodes qui sont figées. Ce n'est pas le cas. Chaque projet, c'est un projet qui va impliquer beaucoup d'innovation en termes de matériaux, de méthodes. Donc il y a de l'innovation vraiment dans toutes les étapes des projets. On est rarement sur de la répétition, donc il y a beaucoup de variété même dans une carrière. Même en restant dans un domaine particulier, vous aurez beaucoup de choses variées à faire au quotidien et au long de votre carrière. Là, vous avez des exemples. L'image du haut avec le pont, c'est une maquette, une ébauche d'un pont qui a été réalisé au cours du projet pont du département. C'est un des projets phares du département. Vous avez des aspects structure, des barrages. Et puis là, l'image qui est là, c'est la déformée de la galerie d'accès du Lyon-Turin, où vous voyez que vous voyez la convergence du tunnel qui n'est pas du tout cylindrique. Vous avez une déformation avec beaucoup d'anisotropie. Donc là-dessus, il faut innover complètement sur les méthodes de dimensionnement pour calculer le tunnel et pour assurer la stabilité par la suite. Donc il faut... Vous avez besoin d'acquérir beaucoup de compétences en termes de mécanique, de compréhension des matériaux et puis des ouvrages de soutènement aussi. En termes d'innovation, vous avez aussi des innovations en termes de matériaux, des nouveaux matériaux qui rentrent en jeu. Alors, bon, ça peut prêter à sourire parce que la construction en bois, c'est quelque chose d'ancien, mais... Ça revient. Vous avez ici, c'est l'exemple au Square des Batignolles, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un immeuble en R+8 qui est construit par Bouygues. Alors, je sais peut-être que Bernard, tu sais s'il est fini ou pas. Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Donc, c'est une ébauche du projet, mais je crois que les travaux ont commencé, si je ne me trompe pas. Et vous ferez partie de ceux qui pourront bénéficier d'un nouveau cours sur la construction en bois. Nous sommes en train de monter et qui sera disponible a priori à partir de la rentrée pour les troisième années. Vous avez des choses un peu plus qui sortent un peu du génie civil classique, mais qui sont en plein dedans. Des innovations en termes de développement durable, si vous voulez, l'image de l'immeuble en haut. C'est une maison dans laquelle les fondations sont, on appelle ça thermoactives. Donc il y a un système d'échange de chaleur avec le sol environnant qui permet de diminuer la consommation énergétique, que ce soit en hiver pour moins chauffer ou en été pour moins climatiser si c'était nécessaire. Vous avez des implications du changement durable sur le comportement des sols, par exemple. Des applications avec des études qui sont importantes dans la mer du Nord pour implanter des fermes offshore. Et puis des choses qui peuvent vous paraître un peu plus exotiques, mais pour lesquelles on a besoin d'ingénieurs, alors génie civil ou géotechniciens, notamment dans le domaine du pétrole, où les compétences des géotechniciens sont reconnues. Et ils font partie d'une population qui est assez demandée en ce moment, pour explorer des champs qui sont un peu complexes. Voilà, donc ça c'était une brève introduction sur les métiers et les débouchés. Alors, à moins que Bernard veuille prendre la parole.
De génie civil à l'école des ponts, c'est la plus vieille formation qui soit au monde, on va dire comme ça. Donc c'est une vieille tradition, une forte tradition. On est dans la continuité de cette tradition. Et deuxièmement, c'est toujours, nous avons l'ambition d'être la formation numéro un en qualité et en renom pour le génie civil en France ou dans le monde francophone, on va dire. Donc on a un degré, je dirais, d'abord d'exigence de l'enseignement et puis un degré d'exigence vis-à-vis des élèves aussi qui est assez élevé pour être... à la hauteur de ce niveau, hein, de cette réputation et de ce niveau. On a largement réformé l'enseignement il y a déjà une quinzaine d'années. Et maintenant, on a repris cette réforme maintenant, de manière à être, je dirais, toujours à jour de technologies qui évoluent énormément, des enjeux aussi, comme disait Jean-Michel, hein, donc des enjeux de notamment de développement durable, enfin la question environnementale, la question sociétale. Donc on a tout réformé, on a réformé les choses en plusieurs étapes, mais on a réformé de manière à être vraiment à jour. Cette réforme-là, elle s'appuie toujours sur la tradition de l'école, c'est un socle scientifique très solide qui est autour des mécaniques, dynamique, mécanique des différentes mécaniques, voilà. Les mécaniques des sols, mécaniques des fluides, mécaniques des structures. On a ajouté la thermique cette année, parce qu'on pense que c'est important. Mais au-delà de ce socle, on vous a donné quelque chose, on vous donne un enseignement qui en fait se développe autour de la technique, l'apprentissage des techniques, de manière assez concrète. Ce qu'on voudrait, c'est que quand vous sortez de là, vous êtes à la fois des ingénieurs qui êtes très solides du point de vue scientifique, mais aussi avec une bonne connaissance, une bonne, comment dire, que vous ayez touché du doigt la technique. Technique, c'est concret. Pour vous, c'est nouveau. Pour ceux qui viennent de taupe, notamment, enfin, pour votre cursus, en fait, c'est nouveau. Ce rapport au concret. Ce qu'on veut, c'est que vous sachiez faire le passage du scientifique au concret. Et puis, un autre aspect qu'on va vraiment renforcer, et ça va changer par rapport peut-être à l'enseignement que vous avez reçu jusqu'à présent, il y a beaucoup de projets. On vous fait apprendre par le projet. Donc c'est une autre forme d'esprit. Et donc chaque semestre, vous aurez un projet. Voilà. Donc on a été dans le sens de ces réformes-là. Ces réformes-là ont été dans ce sens-là. Hein. On a aussi introduit, comme tu le disais, Jean-Michel, des nouveaux cours. Je vous disais la thermique, mais aussi le bois, par exemple, pour ceux qui seraient intéressés, etc. Hein. Voilà. Donc, ça prépare à des métiers qui sont passionnants, avec des enseignants qui sont de très très haut niveau, qui sont les meilleurs, je dirais, sur Paris, mais aussi quasiment en France, qui sont soit des chercheurs, soit des praticiens. Et on fait en sorte que cet enseignement soit passionnant. Voilà. Et de manière à ouvrir à des métiers qui, vous verrez, sont passionnants. C'est pas juste des métiers pour gérer des techniques du passé, c'est des métiers pour préparer, en fait, le génie civil aux évolutions à venir. Voilà. Donc, pour ça, on a besoin de grands ingénieurs. Voilà. Donc, on espère que vous viendrez nombreux dans ce département parce que, voilà. On sera heureux de vous accueillir. Donc, Romain, c'est ça, tu veux tenir le même discours que moi, j'imagine, et que Jean-Michel. Merci.
Bonjour. Donc je m'appelle Romain, je suis de la promo 012-013L parce que j'ai fait une année de césure. Vous êtes de quelle promo en fait? 019, ok. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qu'ont changé aussi depuis que j'ai fait GCC. Mais alors je vais plutôt vous parler de ce que j'ai fait après, pour que vous voyez un peu ce qu'on fait en dehors des cours. Mon année de césure, je l'ai faite en Allemagne, dans un bureau d'études, et qui calcule des structures complexes, et c'était des structures tendues comme celles qu'on voit ici. C'est le stade du Havre, et moi j'ai travaillé un peu sur ce projet-là. Donc c'est une toile en ETFE, donc c'était un matériau qui est pas très bien connu, donc il y avait vraiment, c'est un matériau vraiment innovant. Il faut faire plein de démarches, des ATEX, des avis techniques, des choses comme ça pour pouvoir arriver à construire ce type de projet. C'était en particulier ce projet-là qui m'avait attiré, parce que moi je viens de pas loin du Havre. Et bon, enfin, il y avait un côté construire le stade pour l'endroit à côté duquel vous avez grandi, c'est assez sympa. C'est assez gratifiant. Et juste pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, avant qu'on le pose, bah, ça ressemble à une bâche. Et en fait, ce qui va rendre la raideur structurelle à cette chose-là, c'est la façon dont on le clamp et où on met la pré-contrainte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où il faut de l'ingénierie assez poussée quoi, pour arriver à faire marcher ce type de structure-là. Et vous voyez en fait qu'on arrive à couvrir des surfaces très importantes avec quasiment pas de matière. Ça fait un quart de millimètre d'épaisseur, la structure à ce niveau-là. Donc c'était vraiment... j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de projets. Donc ça, là, on voit, c'était pour les JO à Londres. Et c'était le pavillon de Coca-Cola. Là, c'était un projet qu'on a fait pas mal dans l'urgence. Enfin, j'ai bossé sur la façade, sur l'analyse de la structure aux éléments finis. Donc ça vous donne une idée du genre de choses qu'on s'est calculé après une deuxième année en GCC. Ça s'est bien passé, ça a tenu. Ils l'ont démonté. J'ai aussi travaillé sur le frac de Dunkerque, sur la façade, où là c'était vraiment des aspects de thermique, plus que de structure, enfin vraiment de construction. Donc c'est vraiment aussi là de la technologie, il n'y a pas que des maths, il n'y a pas que du calcul, il y a aussi du bon sens, il y a des discussions avec plein d'acteurs différents. C'est ce qui rendait ce stage-là super intéressant, et le boulot d'ingénieur structure aussi en bureau d'études, c'est passionnant à cause de ça en fait, parce qu'on interface plein de gens différents, les gens qui fabriquent, les architectes, la maîtrise d'ouvrage qui est enfin le client en fait quoi. Cette année-là, ça m'a vraiment plu. J'étais en Allemagne et ça m'a donné aussi un peu l'envie de voyager. En fait, pour ma troisième année, j'ai été accepté au MIT, donc j'ai fait un Master of Engineering là-bas. C'était entre 2012 et 2013. Donc c'est une super expérience. Il y a pas mal d'élèves. Il y a une sorte de filon maintenant des élèves qui vont au MIT depuis GCC, il y en a eu plusieurs après moi. Il y en a qui font leur thèse là-bas aussi maintenant. Donc l'école est très reconnue en fait. Et il y a même quelqu'un qui a fait sa thèse à Navier qui est professeur au MIT. Il s'appelle Franz-Josef Ulm. Donc en fait, l'école a quand même une renommée, en particulier dans le génie civil à l'étranger. Donc ça, c'est assez important de le souligner. Et par contre, quand je sortais du département civil engineering et que je disais que je venais de l'école des ponts et chaussées, c'était moins évident. J'étais moins connu, quoi. Enfin, les gens identifiaient moins bien. Ils connaissaient Polytechnique, mais ils connaissaient pas l'école des ponts. Moi, j'ai pas trop détaillé ce que j'ai fait. Bon, c'était une troisième année un peu différente de ce que j'aurais pu faire au pont. Et notamment, j'avais une thèse de master où j'ai travaillé avec un chercheur, enfin un professeur au MIT. Ça m'a vraiment donné le goût de la recherche. Et j'ai décidé de revenir de ce côté-ci de l'Atlantique pour faire une thèse. Donc au laboratoire Navier, qui est en gros le laboratoire de mécanique de l'école des ponts. Et qui a énormément de champs d'activité. Parmi ces activités-là, il y a la conception de structures complexes, qui est vraiment le domaine qui m'intéresse. Donc je viens de soutenir ma thèse cette année. Vous voyez le genre de choses que j'ai pu faire. Le sujet de ma thèse en deux secondes, c'est comment rendre constructibles des géométries qui sont courbes. En particulier parce qu'on n'a plus de répétition des éléments qu'on va mettre en œuvre. Il y a des propriétés constructives qui sont perdues quand on essaye de construire des formes courbes, donc en particulier des panneaux qui ne vont pas être plans, des choses comme ça. Donc moi j'ai travaillé sur comment rationaliser la fabrication de ces choses-là, comment optimiser le comportement structurel de formes complexes. Donc, bon, c'est un résultat de calcul éléments finis qu'on voit en haut. Je ne sais pas si le pointeur marche en fait. Non, il n'y a pas de pointeur. On voit mal. Bon, là, voilà. Et après, là, c'est diverses applications qu'il y a dans ma thèse. Ça, c'est directement inspiré d'un... On voit très mal, c'est mal contrasté. C'est inspiré d'un projet qui est en train d'être construit à Boulogne, qui s'appelle la Cité Musicale par Shigeru Ban. Et il y a eu pas mal de boulot pour le couvrir avec des facettes planes. Moi, j'ai développé des outils informatiques qui permettent de le faire en temps réel, en quelques millisecondes. Donc voilà, c'était le contenu est vraiment super intéressant parce qu'on on est dans des choses qui sont techniques, mais il y a aussi une grande liberté, une grande créativité à mettre en œuvre. Ça m'a aussi permis de voyager pas mal. J'ai présenté dans quelques conférences à l'étranger. Donc il y a Zurich, en Pologne, à Tokyo, à Boston, à Amsterdam, à Hambourg, à Paris. Donc ça, c'est aussi une composante de la recherche, c'est qu'on communique sur ce qu'on fait et on est amené à rencontrer plein de gens super intéressants, du coup avec un haut niveau, voilà, quand on rencontre d'autres chercheurs. Bon, après, il faut aimer voyager aussi, mais moi, c'était le cas. Alors, je vais aussi prendre la casquette enseignant dans le département GCC, parce que depuis 2014, je suis enseignant dans différents cours, notamment une semaine d'ouverture qui s'appelle Construire le Courbe. Et cette année, en fait, vous avez peut-être vu entre le bâtiment Carnot et puis le bâtiment Coriolis qu'il y a une structure en bois qui est construite. Donc là, j'ai participé à ce projet-là. Les élèves étaient vraiment super contents parce que en une semaine, ils ont fait la conception, la fabrication et le montage d'une structure sous laquelle ils pouvaient tous tenir en fait, quoi, qui fait 50 mètres carrés. Donc à la fin, là j'ai pas mis la photo, mais on a tous on était tous sous la structure. Donc bon, c'était vraiment sympa. Et c'était beaucoup d'investissement aussi. En général, les cours de GCC sont assez exigeants, mais il y a quand même une récompense à la fin, c'est qu'il y a la fierté d'avoir construit quelque chose. Vous voyez différents exemples. Et maintenant, je suis resté à l'École des Ponts et je suis en charge du développement d'un laboratoire qui s'appelle le Building Lab, qui est une entité en fait entre différents laboratoires de l'école sur la thématique de la construction numérique, de la fabrication numérique pour l'architecture. Donc il y a deux laboratoires, il y a Navier, puis il y a le laboratoire LIGM, qui est le laboratoire qui fait de l'imagerie, dont vous avez peut-être parlé en la présentation IMI. Et en fait, on essaye, avec cette nouvelle entité, d'adresser des problèmes vraiment compliqués auxquels se confronte le monde de la construction. Et le fait que maintenant on commence à s'intéresser à la robotisation dans la construction et qu'on a aussi toutes les révolutions liées au machine learning, ces choses-là, on peut faire énormément de choses avec ces nouvelles technologies. Donc le but, c'est d'explorer un peu les potentialités de cette nouvelle technologie. Donc, il y a déjà plusieurs partenariats industriels. Il y a eu pas mal d'investissements, donc les robots comme ça, on va en avoir trois cet été. En gros, ça fait 2,20 m, ça porte 150 kg à 6 mètres seconde. Enfin, c'est des beaux bébés. Donc en gros, on peut les programmer pour qu'ils déposent des objets, qu'ils déposent des briques, des parpaings, ce genre de choses. Ici, je vous mets un projet auquel participe un ancien élève, qui est la promo 2013. Donc, c'est Romain Dubalet. Il a créé une boîte qui s'appelle X-Tree avec pas mal d'autres personnes, qui fait de l'impression 3D avec du béton. Et actuellement, il fait sa thèse à l'École des Ponts. Et il va imprimer un mur en béton cette année. Donc il y a pas mal de choses qui vont venir, de l'innovation vraiment du côté de la recherche. Et le but, c'est aussi de faire passer cette innovation dans l'enseignement et que les élèves puissent participer à ce type de projet avec des nouvelles technologies, ce genre de choses. Donc ça, c'est en train de se mettre en place, mais ça pourrait être des projets, ces choses-là, sur lesquelles vous pourriez être amené à travailler en deuxième année ou en troisième année. Ça aussi, j'ai mis une photo, c'est la petite coque blanche que vous voyez près du bâtiment Coriolis encore. Et là, l'idée, en fait, c'était de faire une voûte où le coffrage était en tissu et on voit des joncs en composite. Et en fait, l'idée, c'est de se débarrasser des coffrages perdus. Et alors, pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, parmi tous les déchets qui sont produits dans l'humanité, 2% de ces déchets, c'est des coffrages perdus pour couler du béton. Donc en fait, il y a un vrai intérêt en fait à réfléchir à des nouvelles méthodes pour faire couler du béton en gros sans faire de coffrage. Donc ça, c'est une solution qui est proposée et il y aura sûrement d'autres essais dans cette direction-là. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont en train de se passer pour GCC. Moi, je pense que j'étais déjà content de l'enseignement que j'avais reçu. Et je pense que ça va être encore mieux dans les années qui vont venir, justement pour vous qui arrivez au bon moment. J'espère que j'ai pas été trop long. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que les activités de recherche qu'on fait spécialement sur les structures complexes pour l'architecture à Navier, vous pouvez regarder le site singshell.fr, qui liste un peu toutes ces choses-là. Et on a aussi une page Facebook, donc vous pouvez vous abonner. Je vous remercie. Ce qui m'a motivé à faire une thèse, c'est en grande partie mon PFE que j'ai fait au MIT, qui était dans un labo de recherche, et là, ça m'a vraiment plu, en fait, la méthode, la réflexion qui est très poussée. On va dire, quand on est en bureau d'études, on n'a pas forcément le temps, quand on a une idée qui pourrait potentiellement être bonne, on n'a pas forcément le temps de la creuser parce qu'il y a un calendrier, etc. On est pris par le temps. Quand on fait une thèse, en fait, on a tout le temps qu'on veut pour réfléchir à un sujet qui nous intéresse. Ça m'a plu, on va dire, un peu égoïstement, quoi. Après, en fait, ce que j'ai découvert aussi en faisant la thèse, c'est que quand on fait de la recherche dans le génie civil, forcément, c'est très appliqué. En fait, on rencontre aussi des industriels et puis il y a des échanges qui sont avec eux. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un parcours qui fait sens aussi quand on est en GCC. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'anciens qui font ça, quoi. Moi, j'étais, je pense, le seul de ma promo et maintenant, il y en a deux ou trois chaque année qui se lancent à faire des thèses, dont Romain Duballet, par exemple. Il y en a d'autres, mais voilà.
Pour le témoignage, je vais repasser la parole à Bernard.
Donc, il y avait une femme, une ancienne qui devait venir, mais finalement, elle n'a pas pu au dernier moment, pour parler d'autres métiers, parce qu'en fait, ce que tu as présenté, c'est super passionnant. Par contre, il y a d'autres voies possibles à l'issue du GCC, et qui sont même les voies les plus courantes. Donc, il y a même pas mal de voies différentes. Malheureusement, on aurait bien aimé qu'il y ait des jeunes là, qui viennent en parler, mais il y a eu des petits. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu, et puis une autre personne qu'on n'a pas réussi à voir non plus. Donc, il y a la voie bureau d'études. Bureau d'études, c'est faire des projets. Donc c'est peut-être un peu moins dans l'innovation, même s'il y a de l'innovation dans les projets. C'est pas de la recherche à proprement parler. Par contre, c'est toujours faire des projets. Ça peut être quelquefois de grands projets compliqués. Ça peut être des ponts, ça peut être des gares, ça peut être des gratte-ciels, ça peut être tout type de projets, des tunnels, etc. C'est toujours compliqué. Il y a toujours beaucoup d'inventions. Voilà. Ça, c'est une voie. Il y a une autre voie, c'est aller plutôt du côté de la réalisation dans les entreprises. Donc là, la personne qui devait venir, c'était quelqu'un d'Eiffage. Ça peut être Vinci, ça peut être Bouygues, ça peut être une PME, ça peut être une entreprise à l'étranger, ça peut être une entreprise spécialisée dans le bois ou dans l'acier ou dans le béton. Ou... Il y a plein d'entreprises différentes. Donc ça, c'est une autre voie, c'est être plus sur le chantier peut-être, dans, vous voyez, dans des stratégies de réalisation. Avoir un bon bagage technique, c'est très important là aussi. Voilà. Il y a une autre voie aussi qui se développe, quelquefois qui est en deuxième étape. C'est ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire c'est être client. C'est savoir gérer un projet, mais être très en amont, ce qui est aussi très intéressant. Et le fait d'avoir un bagage technique, c'est essentiel hein, pour ça. Ça peut se faire dans l'administration, ça peut se faire dans des grandes entreprises de promotion, des entreprises voilà, diverses et variées. Donc les voies sont très diverses. Et aussi dans la nature du travail, vous pouvez sortir en étant plutôt dans un travail technique. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande. Il faut faire plutôt un travail technique. Et puis, on peut le prolonger, ce travail technique, c'est pas honteux. Nous, je continue à faire du projet technique. Il y a beaucoup de vos enseignants qui sont toujours des techniciens, hein, on va dire, des gens. Et puis, il y en a certains qui, au bout de quelques années, vont aller plutôt vers une activité plus de management, on va dire. Alors ça peut être une direction d'entreprise, ça peut être ou de service, ça peut être voilà, management sous toutes ses formes. La technique ne vous enferme pas, ne vous oblige pas à être technicien jusqu'à 65 ans. Hein. Donc il y a beaucoup de parcours variables, divers, à partir de ce point de départ technique. Néanmoins, nous insistons beaucoup sur une formation très technique, très scientifique, très solide, parce qu'on a le sentiment que c'est ça qui est vraiment nécessaire pour les années qui viennent. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas penser que le génie civil, sont des technologies du passé mortes. Ce n'est pas vrai, c'est le contraire. On n'a jamais autant construit que maintenant. Et en plus, on doit construire beaucoup plus intelligemment qu'on a construit jusqu'à présent. On va dire jusqu'à présent, on construit bêtement. Alors, c'est un peu idiot de dire ça, parce qu'on construit toujours au mieux de ce qu'on peut faire. Mais je dirais, si on continue à construire dans 20 ans comme on construit maintenant, alors là, c'est vraiment bête. Là, c'est vraiment idiot. Et d'ailleurs, c'est impossible, parce que les conséquences écologiques sont immenses. Et puis d'ailleurs, ce serait idiot, parce que les nouvelles technologies permettent de complètement changer la manière dont on construit. C'est ce que tu exposais. Les robots vont faire irruption dans 10 ans. Il y aura plein de robots partout. Donc, pour accompagner ça, il faut des ingénieurs, techniciens, pas des managers, vous voyez, pas uniquement des managers qui gèrent des entreprises. Il faut des techniciens. Voilà. Donc, nous, c'est ça, c'est ce genre de personnes qu'on veut former durant les 2 ans, là. Ça, c'est pour les débouchés.
Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux débouchés. Vous devez savoir, je pense, que la France est caractérisée par quand même beaucoup de leaders mondiaux en génie civil, hein, des grandes entreprises qui ont des marchés dans le monde entier. Donc ça offre des possibilités de carrière vraiment très, très riches. Et par rapport à ce que disait Bernard, donc sans aller vers le management à terme qui... Je pense qu'il y a une attirance peut-être un peu naturelle. Le fait de valoriser, beaucoup d'entreprises valorisent maintenant de plus en plus les carrières d'experts. Donc, Bernard parle de techniciens, mais c'est ça, c'est le vous maintenez, vous augmentez votre expertise tout au long de votre carrière. Et c'est des carrières qui sont tout à fait valorisées par les entreprises en termes de progression, de salaire et tout ça. Donc, beaucoup de possibilités. Voilà. Donc, on va passer. Sur un peu la suite, alors il y a des choses qui ont été dites par Bernard tout à l'heure quand il a pris la parole sur l'identité du département. Vous le savez peut-être plus ou moins implicitement, mais un enseignement de qualité, ça s'appuie sur des laboratoires de recherche parce que c'est dans les laboratoires que l'innovation se fait en général. Pas que, je suis d'accord, mais quand même beaucoup d'innovation se fait dans les laboratoires. Et pour GCC, vous avez la chance d'avoir deux laboratoires vraiment très reconnus au niveau national ou mondial. Les enseignements s'appuient beaucoup sur le laboratoire Navier, dont je suis issu personnellement. Romain y est aussi maintenant. On parle de 50 chercheurs à peu près, dans à peu près, ça part de la physique, on va dire, mais pour le génie civil jusqu'à la mécanique des structures. La géotechnique, il y a vraiment beaucoup de domaines. C'est un des plus gros laboratoires de génie civil de France, avec une réputation mondiale vraiment, vraiment établie. Donc ça, Romain parlait de la réputation de l'école en génie civil à l'étranger. Ça passe aussi par les labos. Et c'est une chance pour vous d'avoir accès aux moyens du laboratoire pour des stages, pour les TP, pour plein d'autres occasions, pour les projets. Vous avez aussi un autre laboratoire qui n'est pas à l'école, mais dans lequel l'école est partenaire, c'est le laboratoire d'hydraulique, qui est un laboratoire partagé avec EDF aussi, qui est à Chatou. Vous avez alors une des spécificités du département, c'est vraiment sa proximité avec le monde professionnel. Vous avez une grande proportion des enseignants qui viennent de l'entreprise et qui nous apportent leur expérience et leur technicité. Donc ça, c'est une grande richesse. C'est aussi une richesse pour après, c'est des contacts que vous pouvez avoir. C'est vraiment dommage que Nomiki ne soit pas venue, mais par exemple, elle avait parlé l'année dernière, je peux vous raconter un truc, c'est que donc elle a commencé en géotechnique, et c'est comme ça que je l'avais connue, à CETEC, mais elle est passée du côté infrastructure de CETEC, et l'année dernière, elle finissait de travailler avec Alain Péquer, donc, qui est un de ses anciens profs de dynamique, sur le pont sur le Bosphore. Donc elle a participé au calcul dynamique, au dimensionnement dynamique du pont sur du viaduc sur le Bosphore qui vient de se terminer. Donc. Et c'est un peu grâce à ses cours qu'elle a eu le contact pour pouvoir aller là-bas. Donc c'est quelque chose d'important qui est une chance offerte au département. Alors autre chose pour laquelle vous n'êtes pas forcément conscient de ça, c'est que de par l'aura et la reconnaissance de l'école dans le monde du génie civil à l'étranger, l'école est très attractive pour le génie civil. Il y a énormément d'accords de double diplôme avec d'autres universités étrangères. Donc évidemment, ces accords sont symétriques, donc ça veut dire que vous pouvez aussi bouger dans ces universités-là. Mais du coup, le département accueille beaucoup d'élèves du monde entier, de tous les continents. Et du coup, il y a des promotions multiculturelles. Et ça permet de réellement enrichir la promotion. Quand vous travaillez en projet, vous vous retrouvez avec un peu toutes les nationalités. Vous avez, du coup, vous côtoyez des étudiants qui ont des approches, des cultures différentes des vôtres et qui vous enrichissent tout au long de votre parcours dans le département. C'est aussi un moyen d'avoir des contacts après dans le monde entier parce que, en général, ces étudiants-là font partie des tout meilleurs étudiants de leur pays et vont trouver des carrières dans leur pays quand ils y retournent, des carrières qui sont tout à fait intéressantes et donc des contacts vraiment très importants aussi pour vous. Alors, en termes de matière, de ce que vous allez apprendre, Bernard y a fait référence tout à l'heure. Même si c'est un département technique qui a une vocation vers la construction, vers l'objet construit, la nécessité vraiment absolue, c'est de vous fournir un socle scientifique qui soit vraiment, vraiment poussé. Et donc vous avez plusieurs cours, plusieurs modules qui sont assez intensifs, on va dire. Donc plusieurs thématiques dans la mécanique. Alors, je pense que vous venez de recevoir vos notes de MMC, donc ça va pas tarder. Mais bon, les cours de mécanique que vous allez avoir, ils sont plus appliqués. Donc vous avez des mécaniques de la mécanique pour les sols et les roches, mécanique pour les structures, mécanique pour les fluides, et puis calcul à la rupture et plasticité notamment. Donc c'est
On veut garder un très haut niveau scientifique, mais néanmoins, même le socle scientifique, il est orienté vers l'idée que ce qu'on vous apprend du point de vue scientifique doit être en résonance avec le monde physique réel. Donc, plus que peut-être vous l'avez fait jusqu'à présent, on va faire ce lien. Donc la mécanique, elle va être toujours attachée à se demander est-ce que ça représente bien le réel physique ou le réel technique. Voilà. Donc ce ne serait pas exactement la même coloration que peut-être que certains enseignements que vous avez eus jusqu'à présent.
Mais oui, ça c'est tout à fait exact. J'ai loupé une idée, mais ça me reviendra plus tard. Donc vous avez, dans le socle scientifique, vous avez aussi de la dynamique hein, pour le comportement mécanique sous sollicitation rapide, dynamique des ouvrages, évidemment, donc pour les structures, pour des ouvrages comme les barrages, par exemple. Vous avez, évidemment, il faut appliquer pour aller vers le monde réel, ces outils de la mécanique, vous devez les appliquer à des structures réelles. Et en général, on ne peut pas résoudre les problèmes à la main. Donc, vous avez aussi des modules sur les méthodes numériques. Et puis après, on passe sur des choses plus appliquées, avec des dispositions constructives, notamment, ou des codes de normalisation, sur la science des matériaux. Donc, vous allez faire connaissance avec le béton, l'acier, je parlais du bois tout à l'heure. Et puis, tout ça, ça va vous permettre, au fur et à mesure de votre cursus et des semestres, d'aller vers les ouvrages. Et les ouvrages, c'est l'objet final qu'on étudie. Donc, vous avez des projets ou des cours ça va être, pour vous, ça sera des projets assez lourds. Avec des notions théoriques plus vraiment la mise en œuvre pour la construction. Donc par exemple, le projet pont, on vous présente une brèche, un espace qu'il faut traverser par un pont, et on ne vous donne pas beaucoup d'éléments, et c'est à vous de définir quelle typologie d'ouvrage vous voulez mettre, un pont aubané, un pont suspendu, ce que vous voulez. Et puis, vous allez préparer votre projet de zéro jusqu'à la maquette finale. Évidemment, il n'y a pas la construction, mais voilà, vous faites vraiment de bout en bout l'intégralité d'un projet. Donc là-dessus, vous avez d'autres projets, barrages, tunnels, etc. Et puis, vous avez des cours appliqués comme pour les transports, routes, bâtiments, etc. Voilà, donc après, il y a de l'outillage de l'ingénieur qu'il faut que vous appreniez aussi. Il y a des cours un peu méthode, on va dire, pour méthode pour l'ingénieur, donc management de projet, financement de projet, des choses comme ça, modélisation aussi, quelque chose de très important pour que vous puissiez que vous sachiez représenter correctement un projet dans l'espace en 3D. Vous avez des cours là-dessus aussi. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, hein, c'est la formation qu'on donne ici, c'est une formation de haut niveau dans le sens où vous ne serez jamais des utilisateurs d'outils numériques, par exemple. Vous serez des gens qui vont utiliser des outils numériques, mais avec le recul suffisant et le regard critique qu'il faut. C'est au-dessus d'un technicien spécialisé ou d'un ingénieur moyen. C'est vraiment de vous apporter la culture suffisante pour être critique toujours par rapport à ce que vous faites. Et c'est sur cette base-là que, de toute façon, vous pourrez apporter des solutions innovantes ou résoudre des problèmes compliqués. Sans ce socle scientifique et méthodologique vraiment solide, vous serez coincé dans les méthodes courantes, on va dire. En termes de pédagogie, donc il y a vraiment une large place à l'expérimentation et à la démarche par projet, donc travail en équipe, et puis l'acte de construire, c'est quelque chose sur lequel j'insiste depuis le début, mais vous allez construire des choses, c'est peut-être la chose la plus gratifiante de votre carrière, c'est que vous allez travailler sur des ouvrages qui seront construits, sur lesquels vous pourrez circuler, ou que vous verrez, dans lesquels vous pourrez travailler, si c'est des tours. Donc, il faut que vous ayez cette culture-là d'appréhender la matière, d'appréhender les structures, de construire, de toucher la matière. Donc, c'était pour... Et allez. Ça, ça a été utilisé pour Solidays, pour le festival Solidays. Mais ça a été les élèves de l'école qui l'ont fait. Ouais. Voilà, donc vous avez des exemples de projets ici. Donc assez rapidement, donc au deuxième semestre de la deuxième année, vous allez commencer à choisir un peu ce qui vous intéresse. En termes d'approfondissement, c'est pas définitif, mais bon, ça vous donne une coloration dans votre cursus. Donc vous avez structure, géotechnique, travaux maritimes. L'énergétique des bâtiments, ça viendra plutôt en troisième année pour vous. Voilà, vous avez des projets emblématiques dont je vous ai parlé. Et puis, là, toujours la possibilité de faire des projets libres si vous avez des thématiques qui vous tiennent à cœur. Et, voilà, vous pouvez toujours venir nous voir au département pour travailler sur un projet particulier. Ouais, juste après. Ça va venir. Voilà, bon, ça, c'est Romain avait présenté. On peut passer sur ce genre de... C'est des réalisations des élèves pendant les semaines d'ouverture. Voilà, donc on arrive au parcours.
Donc on a revu un peu la manière dont on présentait l'enseignement. En fait, on a voulu faire des liens avec d'autres départements. Alors c'est pas des parcours, c'est des parcours optionnels. On vous présente un choix de parcours, ça c'est nouveau. Hein. Et, pour certains, il y en a peut-être un ou deux qui existaient déjà, mais pour l'essentiel, c'est nouveau. Donc il y a le parcours, je dirais, classique qui consiste à rester dans le département. Et là, à l'intérieur du parcours classique, vous avez la possibilité d'avoir des sous-options. Par exemple, vous pouvez vous intéresser plutôt à la géotechnique, plutôt à la structure, plutôt à aux travaux maritimes. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième grande option. Certains, vous avez sans doute déjà entendu parler. Il y a ceux qui s'intéresseraient à l'architecture et qui voudraient en fait faire un cursus combiné architecture et ingénierie, sans que l'un pâtisse de l'autre. Et donc, on a créé, alors ça existe depuis quelques années déjà, ce qu'on appelle la filière structure et architecture. C'est très dense, mais extrêmement riche. Donc, ça, c'est environ 30% de plus de travail, peut-être, que pour les autres. Mais voilà, il faut assumer. Vous avez une double formation. Et vous faites tous les projets à l'école d'architecture d'à côté. Vous avez en plus une sorte de formation de rattrapage en architecture. Donc, quand je dis à côté, c'est l'école d'archi qui est là. Et par contre, vous suivez tous les cours techniques qu'on considère comme essentiels à l'école des ponts. Voilà. Et donc vous sortez, vous avez un bon bagage technique et vous avez un bon bagage architectural. Et pour ceux qui veulent continuer, c'est possible de continuer jusqu'au diplôme d'architecture, si vous le souhaitez. Et quand vous êtes à l'école d'architecture, donc vous travaillez avec des élèves architectes en commun. Voilà. C'est ce que tu as fait, toi ? Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, pour ceux qui s'intéresseraient à la recherche, ils peuvent faire des masters recherche. Généralement, c'est plutôt en troisième année que ça se développe. Donc, c'est un peu plus spécialisé dans un cursus qui vous peut mener, par exemple, à faire une thèse. Mais ce n'est pas obligatoire pour faire une thèse. Hein. Toi, ce n'est pas ton cas, tu n'as pas suivi le master. Mais si vous avez une idée de thèse, ben pourquoi pas suivre l'un de ces masters. Vous serez avec d'autres étudiants. Et puis donc, ce qu'on a créé cette année, c'est un certain nombre de parcours complémentaires et qui vont en fait s'ouvrir principalement en troisième année. Donc il y a un parcours qui va être très intéressant, qui a en gros une formation à l'énergie, à la question énergétique, en plus bien sûr de la formation de base de l'ingénieur de génie civil. Donc, notamment énergétique des bâtiments, hein, qui se traduira par tout le côté technique et scientifique de l'énergétique des bâtiments qui s'est beaucoup développé, c'est-à-dire comment on fait en sorte de pouvoir ventiler ou gérer la thermique d'un bâtiment. Mais ça se fera aussi au travers d'un projet. Donc ça, c'est un premier parcours. Il y a un deuxième parcours qu'on crée avec VET, qui est, en gros, mettre ensemble la question des infrastructures de transport et la question du transport, du point de vue, vous voyez, plus économique et aménagement. Donc la route, l'aéroport, le port, etc. Voilà. Troisièmement, toujours avec VET, mettre en rapport l'aménagement et l'infrastructure. Hein. Donc les logiques d'aménagement et les logiques techniques d'infrastructure. Parce que en fait, VET a une approche... Vous avez déjà eu la présentation de VET ? Donc il y a une approche plus aménagement, vous voyez. Donc on pensait qu'il y a certains élèves qui nous demandaient en fait de mettre, d'articuler les deux. L'approche un peu technique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit et quelles sont les logiques d'aménagement. Par exemple, pour le transport, l'étude de trafic, qui est plutôt VET, et la conception de la route ou du pont ou du tunnel, qui est plutôt GCC. Donc pour des gens qui seront très intéressés par la question de transport, ces cursus qui sont combinés, qui combinent des cours des deux départements, qui sont combinés en termes d'emploi du temps, hein, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à le faire, vous sont offerts. Un nouveau parcours qu'on propose, c'est plutôt une spécialité de troisième année. C'est quelque chose de très pointu en structure, avec GMM et avec IMI. C'est en fait, alors c'est plus proche de ce que tu faisais peut-être, plus, on va dire, plus scientifique, plus mathématique presque. Hein. C'est comment est-ce que la question de la probabilité de l'incertitude peut être gérée quand on construit une structure. En fait, c'est un sujet très intéressant. Hein. Parce que construire, c'est toujours plein d'incertitudes. Et comment est-ce qu'on gère ces incertitudes, et notamment avec toutes les nouvelles techniques qui sont liées au big data, etc. Hein. Voilà. Et puis, on va essayer de... Mais c'est peut-être pas cette année... année le financement de projet. On va essayer de développer aussi un parcours où la question avec SEGF, où la question du financement et prend plus d'importance. Donc ça, c'est en troisième année. Hein. Voilà. Vous avez donc, vous voyez, une très grande variété de parcours possibles. Hein. Vous avez bien sûr des socles, il y a des choses sur lesquelles qui ne sont pas négociables. Mécanique des structures, c'est pas négociable, vous allez en faire. Mais il y a aussi des ouvertures. Voilà, c'est ce qu'on disait là. Hein. Alors, la question de l'étranger, c'est très important. Vous avez une possibilité d'aller en 3A à l'étranger. Néanmoins, nous, on aime bien vous garder en 3A à l'étranger. Donc, c'est pas une obligation, mais nous, ce qu'on aimerait que vous fassiez, si jamais vous venez dans le département, c'est une césure à l'étranger, qui peut être une césure académique. Donc on a vous verrez des parcours possibles qui vous seront offerts, qui vous seront proposés, qui peut-être peuvent rallonger de 2-3 mois la scolarité, mais qui vous permet de profiter de l'excellent enseignement qu'on propose en 3A ici, tout en ayant une bonne année à l'étranger et tout en faisant un stage. Donc ça, ce serait à discuter au cas par cas avec le département, sachant qu'on ne va pas non plus vous interdire d'aller en 3A à l'étranger. Voilà, les PFE, les PFE, c'est un peu comme dans tous les départements. On fait en sorte que le PFE soit une vraie expérience de un peu innovante, hein. Mais ça se fait en général au sein d'une entreprise ou au sein d'un labo. Il y a plein d'exemples extrêmement riches, comme celui que tu as fait aussi, qui sont possibles. Est-ce qu'on a fini? Voilà l'équipe. Donc, vous avez plein de questions, j'espère que vous en avez. Et en tout cas, on est là pour répondre à toutes vos questions.
Ouais. Vous allez avoir la confirmation par le département de première année, mais donc la prochaine séance, s'il y a des hésitants ou des gens qui sont sûrs mais qui ont des questions, donc ça sera en petite salle et normalement, ça sera le mardi 11 avril. À peu près sur le entre midi et deux, quelque chose comme ça. Vous aurez l'information précise rapidement par Elisabeth. Et puis, voilà, avant ou après cette réunion d'avril, vous pouvez venir nous voir. On est dans le bureau V315, donc LVK, troisième étage. Et vous êtes bien les bienvenus si vous avez des questions précises sur les programmes de cours, les emplois du temps, les cursus. Voilà. Là, on n'a pas voulu vous bassiner avec la liste de cours parce que ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. Mais si vous avez des questions précises sur les cursus ou sur quoi que ce soit, on est là en V315 pour répondre à vos questions. Et sinon, vous êtes invités à cette réunion-là du mardi 11 avril.